s'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, évidemment, on continue de se tenir au courant. On est en plein cœur de l'heure de pointe à Québec, 16h pile. Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. Max, un petit tour en rafale.
Ouais, Capitale Ouest, ça s'est compliqué pas mal dans les dernières minutes entre l'avenue d'Estimauville et Laurentienne. C'est difficile. Capitale Est, c'est encore plus tough. C'est entre le boulevard Masson et le boulevard Pierre-Bertrand que c'est particulièrement difficile. Sinon, pour ce qui est de Robert Bourassa, en direction nord là, du boulevard Wilfrid Hamel jusqu'à à peu près la capitale, c'est assez au ralenti. Évidemment que l'accès au pont Pierre-Laporte en direction sud, là, que ce soit par Duplessis ou Henri IV, à peu près à la hauteur du chemin Sainte-Foy, un bon ralentissement qui va commencer. Bonne nouvelle pour vous, la 20, ça va bien partout. On va finir avec une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, oui. Ce serait moins long, les bulletins de circulation, si on faisait juste regarder à cette heure-là les bouts, ça va bien.
Je pense que oui.
Et si on se fie aux rumeurs qui courent actuellement, il va venir nous voir à Québec l'an prochain pendant la pré-saison, au moins, et peut-être même pendant la saison régulière. Notre ami Pierre-Aude, qu'on s'en va rejoindre à l'autre bout des autoroutes. Salut, Pierre.
Salut, Denis. Bonjour, Véro. Allô. Salut, tout le monde. Écoute, j'ai déjà... Pendant que je décrivais le match hier, je perçois cette rumeur-là. Je pense que François est assez bien branché là, pour l'avoir sorti.
Oui. En il confirme pas mal pour la pré-saison, d'ailleurs.
Oui. Ben, j'ai écrit à Lynn pendant que je décrivais le match. J'ai dit,
on va à Québec.
Ta valise, on s'en va à Québec. Elle dit quand? J'ai dit, l'automne prochain. Alors, c'est finalement... En fait, c'est Lynn qui a trouvé la nouvelle et qui l'a...
Allô?
Qui
me
salut Lynn!
C'est Lynn qui a trouvé la nouvelle et qui me l'a envoyée. Je trouve ça une merveilleuse idée. Écoutez, c'est très personnel ce que je vais dire, puis je ne suis pas impliqué là-dedans, je ne sais pas comment ça fonctionne, très honnêtement. Je trouve que ça aurait dû être une tradition annuelle.
Ah oui, oui.
Je pense que... mais ceci dit, je comprends très bien les aléas du calendrier préparatoire, les aléas du camp d'entraînement. Évidemment, ça prend un adversaire aussi. Tu ne peux pas aller jouer là tout seul. Alors, il faut qu'une deuxième équipe accepte. Mais je trouve que le contexte canadien-sénateur, si ça va dans cette direction-là, serait excellent. Et j'ose croire que les deux équipes auront réfléchi, je vais te le dire d'ailleurs, Denis, au bizarre de camp d'entraînement qu'on a eu cette année.
Ouais.
Et même si la Ligue ne prend pas ça sur ses épaules, puis Bettman a encore mis un petit peu la tête dans le sable, quand il a dit « Oh, ben écoutez, s'il y a une tendance sur 50 ans, on verra, là, hein, s'il y a des blessures pendant 50 ans, pendant les camps d'entraînement, peut-être qu'on y pensera. » Il n'a pas dit 50 ans, mais c'est mon...
Il a montré ce côté qu'on aime détester de lui un petit peu, Gary Bettman.
Ben, remarque, un commissaire, que ce soit celui du baseball, de la NFL, tu sais, si tu demandes à Roger Goodell, tout va bien, Madame la Marquise.
Ben oui, évidemment.
Puis même chose dans la NBA. Sauf que la NFL est peut-être la plus proactive des ligues professionnelles pour être capable d'apporter des changements. Quoique, je ne sais pas si tu suis les séries du baseball majeur. Malheureusement, j'ai tellement pas de temps pour les suivre. Mais quand on a arrêté de faire l'autruche, qu'on a décidé de mettre les matchs plus courts, puis de mettre un chronométrage pour les lanceurs, écoute, c'est extraordinaire comment c'est plus agréable de regarder un match de baseball. Alors, moi, j'aurais aimé que Gary Bettman dise au moins, écoutez, on est bien conscient qu'il y a peut-être quelque chose à regarder. Nous allons le faire dans les meilleurs intérêts de la Ligue et ainsi de suite. Mm-hmm. Mais ce n'est pas son genre. Gary Bettman se contente toujours d'être le porte-parole des propriétaires, préfère en coulisses regarder s'il y a des choses à faire et se rapporter aux propriétaires. Je le comprends dans une certaine mesure, mais j'aurais aimé qu'ils disent il y a peut-être quelque chose à voir et regarder là-dedans. Bon, ceci dit, en espérant que et on voit déjà presque un an d'avance, que les équipes aient la courtoisie et le respect d'amener des formations intéressantes.
Pierre, c'est une rumeur double qui circule présentement, puis j'ai l'impression qu'il faut comme placer un canyon de différence entre les deux affirmations de François Gagnon du côté de RDS. La différence entre un match pré-saison et un possible match de saison régulière, moi j'ai l'impression que c'est plus facile d'envoyer les Devils et les Sabres en Tchéquie que d'envoyer le Canadien au centre Vidéotron en saison régulière.
Que c'est bien dit, mon cher Denis. Que c'est bien dit. Et moi, je peux te dire une chose. J'ai déjà décrit un match des Sharks de San Jose à Sacramento.
C'est vrai.
Il y a eu une époque où c'était intégré dans le calendrier de la Ligue nationale. Mm-hmm. C'était intégré. qu'il y avait quelques matchs. Chaque équipe devait se prêter au jeu d'aller disputer quelques matchs dans des terrains neutres, dans des marchés neutres.
Ouais.
Et j'avais adoré mon expérience. Ça avait fait ça le comble. On a même failli aller au Dakota du Nord.
Mais voyons donc.
Oui, oui, ça a été abandonné. Je ne sais pas pourquoi j'aurais adoré ça, aller à Fargo, puis vivre l'expérience, mais ça n'a pas fonctionné. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et si tu regardes comment la NFL est en train de regarder son calendrier, et c'est pour ça que je reviens à la NFL, je comprends que c'est la plus riche des ligues, je comprends que c'est celle qui a probablement le moins de, comment dire, donc, le moins à faire pour être populaire, mais c'est nettement la plus riche. Mais quand Roger Goodell dit, écoutez, peut-être que le Super Bowl, là, il ne sera peut-être pas dans un stade conventionnel ou un stade d'une ville existante dans l'avenir. Peut-être qu'on ira en dehors, peut-être qu'on ira ailleurs et qu'on fera un show encore plus gros avec le Super Bowl.
Ouais.
Moi, j'aime entendre ça. On en est rendu là dans le sport, puis je fais partie des plus vieux, je fais partie des nostalgiques en partie, je fais partie de ceux qui aiment bien la tradition et tout ça, mais en même temps, j'ai un côté moderne, je pense que vous me connaissez,
oui.
Et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on veuille sortir des sentiers battus. Puis quelque part, Denis, c'est l'offre et la demande. Si la NFL pense faire ça, si la Ligue nationale enfin met le petit orteil en Europe alors que ça aurait dû être fait il y a 30 ans ou il y a 25 ans, ben je me dis bravo. Et c'est là où on en est. Et ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire qu'il y a de l'argent discrétionnaire pour ça. Oui, les propriétaires s'enrichissent, mais les joueurs s'enrichissent, les athlètes s'enrichissent. Et si les athlètes s'enrichissent, eh bien, ça veut dire qu'on en a probablement des meilleurs qui sont là pour nous divertir et qui sont là pour nous émerveiller. Et pour ceux qui n'aiment pas le sport, je ne suis pas en train de vous faire une vente. Vous, c'est un peu l'équivalent en divertissement. Je ne suis pas très Taylor Swift moi-même. Mais je serais à la place de Taylor Swift que je voudrais moi aussi surfer sur cette vague-là et avoir une extravagance encore plus grande à présenter puis une offre de spectacle encore plus grande à présenter à tes fans.
C'est quoi les retombées du séjour de Taylor Swift à Toronto, Véro?
Oh,
on en a parlé
Dieu.
Cette semaine.
Je vais essayer de te retrouver les chiffres.
Je pense que c'est 200 ou 220 millions de dollars ou quelque chose dans le genre.
Ça
elle va
bon
donner
sens,
6 concerts
ouais.
du côté de Toronto,
pendant
de ce que j'ai compris.
Pendant le mois de novembre, c'est majoritairement de l'argent qui va provenir de l'étranger. En fait, c'est 282 millions de dollars en boost économique. Ça inclut pas les billets de spectacle, ça inclut pas le transport aérien, ce n'est que
c'est
l'argent
l'hôtel,
dépensé
les restaurants.
Sur place.
C'est l'argent
Exactement.
En œuf. Véro, c'est l'argent en œuf qui
est
comme le Grand Prix.
Ouais.
Mais on est loin, on est encore bien en avant du Grand Prix. Puis pourtant, le Grand Prix a toujours été l'événement numéro un au Canada pour les entrées de fonds. Alors, c'est extrêmement... c'est ça. Écoute, et puis, tu as raison de dire c'est de l'argent en œuf parce que oui, tu as les gens qui sont du centre de Toronto, mais Toronto, c'est un gros pôle d'attraction. Les gens viennent de l'extérieur. Et puis, de plus en plus, ces frontières-là, elles sont brisées. Toi-même, Denis, tu te promènes, tu vas voir du sport un peu partout.
Ouais.
Véro, tu fais la même chose.
Ouais.
Alors, on en est rendu là. Alors, écoute, je sais qu'on fait un long détour là, pour parler de la perspective d'un match du Canadien en pré-saison, en match préparatoire, mais aussi en saison régulière. Mais j'applaudis l'initiative. Puis je vais vous faire plaisir, parce que j'ai parlé à mes collègues de la télévision des Kings hier.
OK.
Notamment Jim Fox, qui a joué contre les Nordiques. Jim, c'était un excellent défenseur, qui a joué contre les Nordiques à l'époque des Kings. Ils n'ont que des bonnes choses à dire sur leur séjour. Puis je te dis, là, on est des vieux amis. Non, mais ils n'ont pas à me jouer du violon, tu te dis, comprends-moi. Ils m'ont parlé de l'accueil qu'ils ont reçu. Les deux jours qu'ils ont passés à Charlevoix, ils ont été emballés, ils étaient sur un nuage. Et j'ai dit à Jim, parce qu'à l'aréna de LA Live, on fait des travaux de fou, là, des centaines de millions de dollars, puis il est tout neuf encore. J'ai dit, comment t'as trouvé l'aréna? Il dit, première affaire qu'il me dit, definitely NHL.
Bon.
Définitivement calibre Ligue nationale de hockey.
Wow.
Tout de suite, bang, du tac au tac. Alors, j'étais content de l'entendre dire ça, parce que c'est pas moi qui a forcé sa réponse. Ça a été spontané. Et puis, ils ont dit, écoute, oui, ça prolonge notre voyage. Imagine-toi, ils sont retournés cette nuit à Los Angeles. Ils étaient même pas retournés depuis la visite à Québec. Mais il dit, ça a prolongé notre voyage. Mais il dit, quelle expérience, puis quel accueil on a eu.
Ça n'a pas été un grand match de hockey hier pour le Canadien. On parlait des Kings, peut-être qu'ils avaient la tête encore en vacances dans la dernière semaine. Ils ont perdu contre les Bruins. Ils ont perdu un match de fou contre les Sénateurs d'Ottawa.
8 à 7.
Ils ont perdu 6-2 contre les Leafs. Et le Canadien, finalement, qui a fait les frais d'une victoire des Kings. Puis ce qui fait beaucoup parler, puis là, je veux t'entendre là-dessus, Pierre. Là, Lane Hutson, c'est le sujet à la mode chez les partisans du Canadien.
Ça polarise.
Oui, effectivement. Puis ici, on a eu des débats entre les différents animateurs, à savoir Lane Hutson. Ce qu'on fait avec, premièrement, parce qu'il joue énormément. Je comprends qu'il y a eu des blessures hier soir, mais hey, il a joué une demi-heure. Il a quasiment joué plus longtemps qu'on se parle à tous les vendredis. Là, c'est quand même particulier.
Ouais, nous autres, c'est un petit vendredi plate, une demi-heure.
Ouais, c'est ça. Il n'y a rien là, nous autres. On est à un autre niveau. Mais Lane Hutson qui crée des choses, puis je pense que c'est ce genre de joueur-là, puis tout le monde était au courant. En même temps, tu regardes sa fiche du match max de...
Il y a deux matchs qui avaient fini moins 4. Quand tu regardais le match, il y avait quand même, en tout cas à mon bien humble avis, puis c'est un peu ce qui faisait débat, il n'y avait pas eu un mauvais match. C'est juste qu'il est tellement tout le temps sur la glace, mais à toutes les fois qu'il est sur la glace, il crée quelque chose, mais des fois...
Et ce qu'on jasait ensemble, c'est un moins 4 à 25 minutes sur la patinoire versus un moins 4 à 12 minutes sur la patinoire. Ça n'a pas nécessairement la même signification, mais on le fait beaucoup jouer. Es-tu d'accord avec cette stratégie-là pour le faire avancer puis évoluer?
Bien sûr, bien sûr. Et j'aime bien votre perspective de mettre le moins 4 justement dans la bonne perspective. Tu sais, Bobby Orr a déjà fini avec plus 121. Mais Bobby Orr a fini avec plus 121, mais il finissait certains matchs avec quelques grosses gaffes. Ah. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu es constamment en mouvement, que tu transportes la rondelle, que tu joues qu'importe, c'est-à-dire entre 23, 24 et 29 minutes par match ou 30 minutes par match, c'est clair que tu vas être exposé et ça dépend aussi de ton utilisation. Si en plus tu te retrouves contre les meilleurs joueurs de l'autre côté, c'est sûr que ton risque à l'erreur, au revirement, est beaucoup plus élevé que si tu joues 11 ou 12 minutes par match comme un vrai sixième défenseur. Premier élément. Deuxième élément, moi je suis tout à fait d'accord. Si on est cependant extrêmement aux aguets dans son cas, ce que tu dois t'assurer, c'est que si le jeune en veut, s'il est capable de t'en donner, dans un contexte de joueur blessé hier en plus, est-ce qu'il peut t'en donner encore un 4-5 minutes de plus et que tu es capable de dire, dans ma zone de tolérance pour un défenseur de 20 ans, il a été dans le cadre, il a été dans la boîte. S'il sort de la boîte de temps en temps, il faut que tu sois capable de t'assurer que ce n'est que de temps en temps ou que ce n'est que ponctuel. Le problème, c'est que si ça devient un deuxième soir, puis un troisième soir, puis un quatrième soir, tu ne peux pas laisser aller ça. Pas avec un jeune défenseur de 20 ans. Alors, ainsi sont ceux d'exception. Et ceux d'exception, tu dois leur laisser le terrain tant et aussi longtemps qu'ils vont t'en donner. Parce que si tu commences à jouer avec ça, Denis, ça peut être mal interprété par le jeune athlète de 20 ans.
Je comprends.
Tu sais, David Savard, hier, je ne sais pas si tu as vu mon entrevue avec lui. Là.
Oui.
Il est très zen avec son 16 minutes de temps de jeu. Il n'est pas content. Il n'est pas content, mais il est très zen.
OK.
Parce qu'il a 33 ans. Parce qu'il est rendu à 800 matchs. Puis il sait très bien que rendu au 12 janvier, il va peut-être revenir à 22 minutes. Parce que les circonstances vont se prêter à ça. Mais quand tu es un jeune de 20 ans, et que tu carbures à la confiance, ce processus-là est toujours en croissance, moi, je pense qu'il ne faut pas que tu l'arrêtes. Il ne faut pas que tu viennes jouer là-dedans. Mais il faut que tu sois très aux aguets, Max, que si jamais ça commence à briser un peu, il faut que tu viennes le récupérer, le jeune homme. Il faut faire attention.
Tu parles de joueurs d'exception, puis tu sais, j'ai 23 ans, du hockey, j'en mange, puis il y en a qui font la comparaison avec Piqué Subban en arrivant dans la LNH pour Lane Hutson, mais est-ce que c'est le joueur le plus d'exception qu'on a vu à Montréal depuis, on peut nommer Subban, je sais pas si pour toi ça va encore plus loin que ça, parce que moi, ce que Lane Hutson montre, oui, à 20 ans, mais il y a 7 matchs derrière la cravate, puis moi, tout ce que je veux voir en ce moment, c'est qu'est-ce que Lane Hutson peut être à 25 ans? Je suis le premier à dire qu'il faut être patient avec les jeunes, puis qu'il faut ça va dans les deux sens, là, autant positivement que négativement. Mais est-ce que Lane Hutson monte sa glace, ça me fait tellement capoter. Est-ce que t'as un
ça
peu
te fait rêver pour la suite?
Hein, ça n'a aucun sens. Je regarde les matchs pour Lane Hutson. Hier, tout le monde était moribond, c'était flat. Mais Lane Hutson, toutes les fois qu'il touche à la puck, il se passe quelque chose. C'en est un joueur d'exception?
Ben, jusqu'à maintenant, oui, puis vous l'entendez, je présume, dans votre téléviseur. J'ai même pas besoin de dire que c'est lui qui a la rondelle. La foule se met à crier à chaque fois. Mais t'as raison, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. La comparaison avec Subban n'est pas mauvaise. C'était quand même des défenseurs de styles bien différents, entre guillemets. Tu sais, je pense pas que Lane Hutson va avoir jamais un bien meilleur lancé qu'il a présentement. Mm. Donc, on va oublier ça. Hudson ne sera jamais une terreur à la ligne bleue avec un tir foudroyant. Probablement que Subban en avait un meilleur.
Oui.
Piqué pouvait frapper dur. Tu te rappelles quand il frappait de dos, là, il pouvait frapper très dur. Hudson ne le fera pas, mais j'ai un bon ami qui sort la hanche hier contre le gros Kempe. Il me faisait penser à des petits défenseurs que j'ai vus de mon époque, les Bobby Bond, les Gary Bergman, qui étaient extraordinaires en sortant leur hanche pour faire basculer l'adversaire. Donc, il ne sera pas intimidé. Mais, comme tu dis, jusqu'où est-il un joueur d'exception? Marc et moi, on jasait l'autre jour. On a une référence qui n'est pas très loin, qui est à New York, qui s'appelle Adam Fox. Tu sais, on disait de Fox, ça va être un feu de paille, puis ça ne durera pas, puis ça ne durera pas. Bien, finalement, ça dure. Évidemment, il y a juste un trophée Norris par année, puis il y a des bons défenseurs dans la Ligue nationale. Mais jusqu'où peut-il aller? Mais ça va un peu dans le sens de ce que je disais à ma réponse, Max, à Denis. Donnons-lui la corde, autrement dit. Pas pour se pendre. Tiens, je vais le dire de même. Je vais faire un Martin Saint-Louis de moi. Donnons-lui la corde, mais pas la corde du pendu. Donnons-lui la corde de la... Comment dire? Donc de la retenue. Pas de la retenue, mais la corde de la direction qu'il doit prendre.
Juste assez.
Et juste assez, et laissons-le se développer. Il est bien entouré. Écoute, j'en parlais avec David Savard avant l'entrevue. Tu sais, il le sait, là, ils veulent prendre soin des petits gars, ils veulent prendre soin des jeunes. Ils savent très bien qu'ils ont une perle entre les mains. Et je vais même aller plus loin. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va lui laisser sa plage de créativité et que les quatre autres joueurs sur la patinoire fassent l'effort de s'adapter à ce qu'il apporte comme capacité offensive. Et moi, je pense qu'une des parties des problèmes du Canadien présentement, à la hauteur de l'utilisation de Hudson, je ne suis pas sûr que tout le monde comprend exactement quoi faire en zone offensive quand il y a la rondelle, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde a encore compris son potentiel, qui était limité au moment où on se parle.
C'est toujours drôle des débuts de saison. Après 4-5 matchs, il y a des gens qui sont déjà dans les grandes conclusions. Là. Puis là, je voyais qu'il y a des gens qui étaient déjà très, très inquiets pour l'avenir du Canadien et même l'avenir de Martin Saint-Louis. Puis j'ai l'impression que dans d'autres villes, c'est encore pire. Avec le début de saison de l'Avalanche du Colorado, entre autres, on a parlé des canons des Leafs qui tardaient dans les premiers matchs à marquer des buts. Mm-hmm. Les Oilers d'Edmonton qui, encore une fois, ont un début de saison difficile. 82 matchs, hein, une saison régulière, puis on dirait qu'à chaque année, on l'oublie, puis on retombe toujours un peu dans les mêmes pièges de début de saison, de juger une équipe après 4-5 games, tu sais, Pierre?
Oui, t'as raison. Et encore là, je parlais de la NFL tantôt. Écoute, je fais partie, moi, des fans qui ont eu une équipe qui ont perdu deux matchs, puis il y en a un qui aurait peut-être dû gagner. Puis déjà, je commence à calculer. Wow, t'as des équipes à 5-0 ou à 6-0.
T'as dit calculer ou bougonner, Pierre? J'ai mal entendu.
Les deux. Mais en même temps, quand je prends une pause, je fais, bien là, Pierre, respire. Il reste 11 matchs encore pour les équipes qui n'ont pas eu de bail. Là. Il reste encore 11 matchs. Fait qu'imagine-toi quand tu dis il en reste encore 76 ou 75 ou 74. L'envers de l'équation est vrai, cependant. Puis j'en parlais encore avec mes collègues des Kings hier, avant qu'ils me quittent pour leur vol de nuit. Je dis, vous devez être content quand même. Ben là, tu sais, 2-1-2 dans nos 5 matchs officiels, c'est pas la fin du monde. Mais je dis, réalisez-vous que c'est 60 %. D'abord, 60 % à l'école, c'était la note de passage dans notre temps.
Ben oui.
Mais 60 % à l'étranger, après un long séjour à Québec pour les matchs préparatoires, avec tout le contexte difficile, je dis, écoutez, si je vous avais dit, là, je vais vous vendre quelque chose à un bon prix, vous allez ramener 60 % des points de classement. Je dis, oubliez jamais une chose. Les points de classement que vous accumulez là, Il n'y a personne qui peut vous les enlever après. Mm-hmm. Ça, c'est comme un championnat du monde de Formule 1. Mm. Puis on va en parler de Formule 1 dans quelques instants.
Ben oui, ça reprend, là, ben oui.
Puis j'ai des petits calculs pour mettre ça en perspective entre Norris et Verstappen. Mais les points que tu accumules, personne ne peut te les enlever. Fait que tu sais, oui, il ne faut pas paniquer. Puis oui, il ne faut pas commencer à avoir des grandes conclusions finales parce que ça ne fait que commencer. Mais il reste que les équipes qui ont des 8 points en banque, comme les Flames, comme les Stars, je regarde ben même les Bruins ouais. qui en ont 6.
Quand on ne joue pas Panthers... contre les Panthers, ça va bien. Là, je...
les Devils... Oui, c'est vrai, tu as raison. Il ne faut pas qu'ils jouent contre les Panthers. Mais les Devils qui en ont 10. Bref, tout ça, ce n'est pas nécessairement ce qui sera le portrait à la fin de la saison. Ce sont des points que tu ne peux pas enlever à ces équipes-là.
Pierre, tu parlais de F1. Après un mois aux arrêts, on reprend les activités. C'est au Texas en fin de semaine.
Ah, Austin, quel beau circuit, Denis.
Ouais. C'est drôle parce qu'on a fait mention de ça tantôt en ondes, qu'on allait te parler, puis qu'on allait parler de F1. Puis il y a beaucoup d'auditeurs qui sont des amateurs de F1 qui attendent qu'on jase. Puis c'est ça qu'ils disaient. Il y en a plusieurs qui sont d'avis que c'est le plus beau circuit de la F1.
Bien, c'est un circuit d'abord qui est moderne, qui est récent. Il a été conçu par le très réputé ingénieur de piste, créateur de piste, Hermann Tilke. Et Tilke a dit, bon, ben écoutez, qu'est-ce que vous me donnez pour travailler? Ben, on lui donne un premier plan, c'est pas trop spectaculaire, c'est plat, pour ne pas dire plate. Ils ont dit, OK, c'est plat, pas de problème, on va t'en faire une colline, toi. Alors, l'espèce de belle montée vers le mirage, le virage 1, oui, c'est presque un mirage parce que tu vois le ciel quand tu montes. Cette belle montée vers le virage 1, puis ce virage en coude, puis la descente infernale après vers le virage 2 et 3, l'enchaînement, et vers les S, bien, tout ça, ça a été créé de main d'homme, d'une part. Mm. D'autre part, Tilke a fait, vous me donnez combien de terrain pour me déployer? Bien, on lui en a donné assez pour qu'il prenne le meilleur et qu'il fasse une petite allusion à d'autres endroits mythiques
okay.
en Formule 1, comme les S de Suzuka.
C'est quoi, il a bâti un Great Hits, dans le fond?
très bien dit, c'est exactement ça. Il a bâti un Great Hits. Il a même été chercher des virages à multiples points de corde. Bref, c'est exceptionnel. Et ça a été peut-être le Grand Prix des États-Unis, là, parce qu'il y a 3 courses aux États-Unis, mais disons, celui qui porte le titre officiel, c'est celui-là. Ça a été probablement, Denis, un des premiers qui a décidé d'en faire un gros party.
OK.
Un gros Woodstock, même qu'une fois, il y a eu tellement de pluie que c'était Woodstock au sens propre.
Comme dans le vrai, comme dans le temps.
Comme dans le vrai, exactement. C'est un gros party. Il y a des artistes qui sont là toute la fin de semaine. Écoute, je n'ai pas regardé le programme encore, là, mais c'est pas là mon focus. Mais c'est un gros party. Mm. Et c'est l'une des seules villes américaines où je ne suis pas allé encore. Je suis pas allé à Houston, je suis pas allé à Austin, je ne suis pas allé à Nouvelle-Orléans. Le reste, j'ai pas mal fait le tour. Mais je rêve d'aller à Austin parce que c'est un contraste, c'est un non-sens dans les mœurs du Texas.
On s'en était déjà parlé, qu'ils ont un slogan là-bas. Hein? Moi, pas encore, parce que je veux y aller aussi. C'est quoi, c'est « Stay Weird Austin », leur espèce de slogan?
Let's keep Austin weird.
Ah, voilà.
c'est un des slogans. Et écoute, à moins que je me trompe, je pense qu'il est officialisé dans les minutes de la ville. « Let's keep Austin weird ». Évidemment, on regarde tous, si on aime la musique, Austin City Limits, qui passe à CBS le samedi soir.
Southwest qui est là-bas aussi, je crois.
Oui. Moi, j'ai un show sur DVD. C'était quoi les shows de guitare? Là? C'était Clapton qui était derrière ça. Là. Voyons, comment on appelle ça? Il en a fait une série. Je m'excuse, ça ne me revient pas. Crossroads.
Bon. J'ai le même DVD, je pense, chez nous.
Le Crossroads Guitar Festival, oui. Ouais.
Voilà. Donc, c'est pas Austin qui a eu le plus mémorable, là, le plus légendaire. Alors, c'est... moi, je suis tellement content parce que la F1, c'est essayer de se trouver... Après Watkins Glen, qui était formidable là, dans l'État de New York, la F1 essayait de se trouver une niche aux États-Unis. On a tout essayé. Il n'y a rien qui a fonctionné. Mais là, Austin, c'est bien, c'est ancré, c'est enraciné. Et On retourne l'ascenseur aux Américains parce qu'on leur donne une belle course sprint aussi en fin de semaine, Denis.
Oui. Hey, je veux ouvrir une parenthèse rapidement avant de revenir sur la F1 parce qu'on parle de Austin. C'est une série que je te recommande chaleureusement. Puis Véro, en quelques clics, va peut-être trouver l'endroit où on peut la trouver. Sonic Highways.
Ah, ben oui, okay? The Foo Fighters.
Sonic Highways, c'est une série documentaire quand les Foo Fighters ont enregistré leur album du même nom. Et ce qu'ils ont fait, Pierre, ils ont décidé de visiter les quatre coins des États-Unis pour aller enregistrer une chanson par studio mythique. On va à Chicago, évidemment. On va à Seattle, évidemment. Mais on va aussi à Austin. Puis chaque épisode raconte l'historique culturel et musical de chacun des endroits, autant le studio que la ville et ainsi de suite. Être un amateur des Foo Fighters, ça n'a pas vraiment d'importance, mais l'histoire musicale qu'on nous trace dans cette série-là, je sais que tu capotes assez sa musique pour prendre ton pied avec ça.
C'est sûr.
Absolument.
Tu peux l'acheter sur iTunes, puis c'est drôle parce que l'épisode 4, qui est l'épisode qui se passe à Austin, c'est justement Dave Grohl qui s'entretient avec le producteur de Austin City Limits, série à laquelle tu faisais référence.
Ouais. Ben, écoute, bon, ben, tu vois, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je suis emballé par ce qu'on a réussi à faire à Austin. On avait bien peur quand le Mexique est revenu sur le calendrier. Mm. On avait bien peur que ça tue le Grand Prix des États-Unis à Austin parce qu'il y a énormément de Mexicains qui traversaient la frontière pour aller à Austin et qui, là, soudainement, ont leur Grand Prix sur le circuit Hermanos Rodriguez à Mexico. Pas du tout. Au contraire, on dirait que ça a créé une synergie puis une dynamique. Et là, enfin, les grands patrons de la F1 ont dit, bon, ben là, peut-être que autant pour l'écologie, et c'est très, très important, que pour la logique commerciale et logistique, pourquoi est-ce qu'on ne collerait pas Austin, Mexico, Brésil à San Paulo? On va prendre une semaine de repos, puis après ça, on va s'en aller à Vegas pour le Grand Prix en pleine nuit.
L'arrêt...
Et c'est exactement ce qui nous attend.
Ouais. L'arrêt de plusieurs semaines là, qu'on vient de vivre en F1, est-ce que c'est un arrêt total où les écuries continuent de travailler sur les véhicules? Puis ça peut-tu devenir un game changer pour le reste de la saison?
On va le savoir, Denis. C'est une très bonne question parce qu'il y a des gros ajustements, il y a des grosses évolutions sur certaines voitures notamment.
Okay.
Ce qu'on essaie de faire... c'est qu'on essaie de préparer les 6 Grands Prix qui restent. Même si les circuits vont différer, ça ne sera pas si... En fait, on n'aura pas des extrêmes là, comme Singapour par rapport à Monza, où tu t'en vas dans deux univers complètement différents. On va quand même rester dans des paramètres semblables. Alors, on apporte des innovations. On a peu d'échantillons jusqu'à maintenant. On a eu une séance libre aujourd'hui. On a les deux Ferrari en tête.
OK.
Mais c'est différent un Grand Prix de course sprint. C'est que là, tu as une séance libre. Après ça, tu as la qualif de la sprint. Après ça, demain, en début d'après-midi, tu as la sprint. Après ça, tu as la qualif pour la course, puis tu as la course. Il n'y a pas beaucoup. Tu n'as pas tes 3 séances d'essais libres comme on a habituellement. Donc, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que les écuries se préparent pour d'abord ce très éreintant calendrier qui nous amène à 6 courses en 8 fins de semaine. Et en même temps, on saura qui aura eu les meilleures idées pour essayer de prendre le dessus, parce que tout est encore ouvert mathématiquement, mon cher Denis.
On va vous suivre en fin de semaine du côté de RDS. Pierre, on a commencé notre conversation en évoquant la possibilité, parce qu'il y a des rumeurs présentement, qu'il y aurait un intérêt pour tenir un match de saison régulière du Canadien au Centre Vidéotron. Là, les auditeurs, ça prend pas grand-chose pour qu'ils se mettent à rêver, là, tu comprendras. Déjà, on a des demandes spéciales. Il y en a qui veulent voir les Islanders avec Patrick Roy derrière le banc.
Ça serait génial.
Et il y en a qui veulent, tu devineras, l'Avalanche du Colorado, avec peut-être un troisième chandail, chandail qu'on connaît.
Oui, mais si tu me permets, les Anglais disent « been there, done that ».
Oui, c'est vrai.
Rappelle-toi, je me demande d'ailleurs si c'était pas notre premier match préparatoire canadien à Québec contre l'Avalanche. Et je pense qu'on était dans le vieux Colisée. Corrigez-moi si je me trompe.
Que c'est le vieux Colisée parce que
je pense qu'on était dans le vieux Colisée.
Oui.
Et tous les joueurs avaient fait l'échauffement avec le chandail des Nordiques.
C'est vrai.
Ils l'avaient enlevé après ça.
Ça a déjà été fait, oui, effectivement.
Mais ceci dit, je suis bien prêt à avoir McKinnon et compagnie aussi à Québec. Mais ce serait extraordinaire d'avoir les Islanders avec Patrick. Et pour toutes les bonnes raisons du monde.
C'est en 2002, Pierre, que le Canadien et l'Avalanche se sont affrontés.
Ah, déjà? Wow.
Oui, ça va vite. Hein?
J'avais un an.
T'avais un an, Max? Joe Sakic était en uniforme?
Oui, Sakic, si je ne m'abuse, était là même.
Je me souviens des photos de Joe Sakic avec le chandail sur le dos, effectivement.
Mais il y a eu un autre match pas mal plus tard que ça. J'ai 2014-2015 aussi pour le match préparatoire, 26 septembre.
Mais Véro, probablement. Mais moi, le match dont je me rappelle, c'est celui où les joueurs avaient revêtu le chandail
2002.
Des Nordiques pour le warm-up, là, pour la séance d'échauffement. Et je me rappelle de voir Sakic. Il me semble, écoute... J'ai pas de mémoire parfaitement effaillée.
Hey, j'ai les images, Pierre, sur YouTube. Sur YouTube, on trouve de tout. Là. Les images de ce match-là. Retour de l'Avalanche au Colisée en 2002. Puis effectivement, c'était le chandail légendaire des Nordiques. Hey. Puis effectivement, t'avais José Théodore et Patrick Roy qui étaient devant les filets respectifs de leurs équipes.
Ben oui.
Donc au vieux Colisée.
Hey, je suis content, ma mémoire survit. J'ai même eu une légère commotion il y a deux semaines. Elle s'en va tranquillement. Je suis rassuré de voir que ma mémoire elle fonctionne encore pas pire.
Le match avait été diffusé à RDS, donc tu t'en souviens. Joe Sakic, Peter Forsberg et Adam Foote sont les trois seuls joueurs toujours actifs avec l'Avalanche à ce moment qui avaient porté le chandail original des Nordiques à l'époque.
J'ai même des images de Pierre.
Ah oui?
Ah, ouais.
Est-ce que la moustache, les cheveux frisés,
on est dans quelle époque
de Pierre Aude?
On est dans l'époque, le cheveu foncé, par exemple, Pierre, je veux rien t'enlever maintenant, là, mais tu ne portais déjà le cheveu foncé. Quand même assez foncé.
Plus de poivre que de sel, c'est ça que tu veux dire.
À ce moment-là.
Non,
bien
ça, écoute, c'est sûr. Bien, c'était sans retouche, là. Sans retouche.
C'était pas de teint.
Ah non, il n'y avait pas de pourhomme seulement à travers tout ça, non?
Non.
Je vais te l'envoyer, c'est trop drôle.
J'ai eu une petite phase que je regrette, mais c'était quelques années plus tard.
Oh, mais tu sais, il n'est jamais trop tard pour faire des expériences, hein, Pierre?
Aïe. Je ne sais pas si on doit se quitter, mais je vais vous donner mon coup de cœur de la semaine.
Oui.
Sur les plateformes. Je sais pas. Évidemment, les Hoods, je dis souvent, on était des bébites un peu spéciales. Paul et moi, on avait, j'ai toujours, et si Paul était ici, il l'aurait toujours, une très, très grande fascination pour la conquête de l'espace, parce qu'on est aussi de cet âge qui avons été témoins de tous les programmes, hein, le programme Mercury, le programme Gemini, le programme Apollo, qui a amené les gens vers la Lune. Mm-hmm. J'ai vu plusieurs documentaires sur Apollo 13. Je trouve que le film avec Tom Hanks est un bijou d'abord, pour les moyens techniques de l'époque, quand on a été capable de recréer la pesanteur et tout ça, ça a été quand même extrêmement rigoureux comme film. Je le reverrai avec plaisir, mais je viens de regarder celui qui vient juste de sortir. Là. Je pense que c'est britannique. Ça vient juste de sortir sur Netflix.
OK.
Et le document se regarde très bien, là, ça dure à peu près une heure ou une heure et demie. C'est vraiment tout ce que vous pouvez, le plus loin que vous pouvez aller à l'intérieur de la salle des contrôles à Houston, tout ce que vous pouvez, tout ce qui existait encore comme archive de films tourné par James Lovell, tourné par ses deux autres collègues, ça vous amène vraiment, mais vraiment, pratiquement dans la capsule Apollo, mais surtout dans le module lunaire qui a servi de refuge pour les trois astronautes, pour les garder en vie de peine et de misère avec une petite ration d'oxygène épouvantablement petite. Et écoute, j'ai dévoré ça sans arrêter. C'est absolument super.
Comment ça s'appelle, Pierre?
Jeunes, c'est Apollo 13 Survival, hein?
Voilà, exactement. Mm-hmm. Et pour ceux qui... pour les plus jeunes, parce que... Écoutez, Max disait qu'il était même pas au monde pour le match pré-saison dont on parlait tantôt. Je sais que je m'adresse à beaucoup plus jeunes que moi, mais je répète, vous n'êtes jamais obligé d'acheter mes propositions. Mais moi, je vous invite à voir comment je souhaiterais que vous, les plus jeunes, vous puissiez avoir un programme aussi démesurément fou que celui de la marche sur la Lune, la conquête de la Lune.
C'était rassembleur comme projet, là.
Véro, tu viens de mettre le mot sur ce document-là. Rassembleur, c'est ce qui ressort du document, entre autres. La planète a arrêté, les guerres ont arrêté, les courses à ceci et cela ont arrêté. Les Russes, les Chinois, les Indiens, les... les grands rivaux dans ces grandes démarches-là se sont tous solidairement ralliés derrière la NASA et derrière une poignée d'hommes et de femmes qui devaient improviser le retour sur Terre. Hey. Inconcevable. Donc, tu dis, tu n'es pas devant une adaptation d'un fait ou d'une science, tu es devant l'inconcevable. Et tu dis, ça ne peut pas être inconcevable. Il y a 3 personnes qui vont perdre la vie pour ce projet-là. Bon, on a réussi à les ramener sur la Terre en très bonne santé. Alors, je vous invite à le faire si vous avez,
l'esprit
un peu curieux. Vraiment très, très bien. Et c'est pas pompeux, c'est pas une narration très, très pompeuse, et ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
C'est très moderne, parce que c'est quoi un documentaire moderne? C'est d'aller en arrière des portes. Mm-hmm. Bien là, vous êtes dans l'EM, puis vous êtes dans la capsule Apollo, et vous êtes surtout avec Gene Kranz, le génial Gene Kranz, qui était le chef d'orchestre de tous les ingénieurs, femmes et hommes, qui travaillaient dans la... Mission Control à Houston, dans la salle de contrôle à Houston.
Pas de stress, lui, hein?
Non, mais je te jure, là, puis écoute, il fume comme un engin. Ça ajoute au documentaire. C'est noir et blanc, puis les gens fument, Denis.
c'est vieux, ça, hein?
mais on s'en balançait dessus de 4-5 clopes pour ramener 3 astronautes qui allaient mourir dans cette épopée-là. Alors voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est pas un coup de cœur de musique, mais c'est un coup de cœur d'un autre terrain qui mm-hmm. me passionne.
On le partage avec plaisir, puis on se prend une bonne note. Hey, bonne fin de semaine, Pierre. On pense à toi fort.
Salut, au grand plaisir. On se parle vendredi. Bye. Profitez du beau temps. Il fait tellement beau.
Oui.
Et on se donne rendez-vous dans un an pour un souper. Là,
c'est vrai.
Ensemble,
c'est déjà dans mon agenda, Pierre. <C'est...
rire> Lynn est déjà habillée, elle est déjà prête à partir.
Yeah. Ben, moi, de mon côté, je finis l'émission, je m'en vais m'asseoir sur la passerelle, puis j'attends. Je compte les jours.
Bon, ben écoute, garde ma chaise.
C'est bon. Elle va être chaude, mec, t'arrives.
Hey, peut-être que nous deux aussi, mais ça, c'est une autre histoire.
Oui, écoute, on va être sans grosse bière. Pour le match hors concours à RDS, on vous avertit tout de suite.
Ça sera funky.
Ouais, passez à deuxième. Ouais. La description va être lousse un peu. Là.
Ouais, ben, peut-être que le match va être encore meilleur. On sait pas.
Peut-être.
Je vous salue, je vous embrasse. Prenez soin de vous autres.
Salut Pierre, notre ami Pierre Houd. Donc, en fin de semaine, Grand Prix du Texas du côté de Austin. Ça va être à suivre du côté de RDS. Puis peut-être répéter le nom de la série qui est disponible sur Netflix.
Oui, ça s'appelle Apollo 13 Survival. Ça dure 1h38. C'est sorti il y a quelques semaines à peine. Puis c'est effectivement c'est 7000 heures d'archives qui ont été visionnées pour être capables de produire ce documentaire.
Fait que pour les gens qui se posaient la question, Pierre Houd fait partie des personnalités sportives qui croient qu'on est allé sur la Lune pour de vrai.
Pourquoi y en a-tu qui doutent de ça à la lumière de récentes informations?
Ça se pourrait! 16h37!
C'est une journée difficile pour ces gens-là,
peut-être. Ouais, c'est pas facile à tous les jours pour les complotistes. Ouais. Hey, c'est un spécial Rock and Roll Hall of Fame en fin de semaine sur les ondes de Boulevard 102.1. La meilleure musique de la business, mais on va vous jouer également des artistes qui ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame parce que la cérémonie va être diffusée en direct samedi soir sur Disney+.
Oui, à 19h, si ça vous tente de vous brancher là-dessus, vous allez être en mesure de le regarder. Cette année, parmi les gens qui sont intronisés, Mary J. Blige, Cher, hey, 33 ans avant d'être nommé et nominé pour Cher, ça a quand même pas de bon sens.
Il n'y a rien de plus rock and roll que Believe. Hein,
Foreigner, Peter Frampton, quand même. Là.
Do you feel like we do?
The Kool and the Gang, A Tribe Called Quest, mais surtout une deuxième intronisation pour Ozzy Osbourne, alors que Black Sabbath a été nominé la première fois, la première fois en 2006, bien sûr, mais Ozzy tout seul, il a fait du bon stock. Là.
Avant les grandes résurrections de groupes comme Green Day, comme Blink, tout. C'est peut-être une des premières grandes résurrections de l'histoire du rock. Passage d'un Ozzy que Black Sabbath largue parce qu'il n'y a plus rien à faire avec. Problème de drogue, problème d'héroïne, problème de boisson. Et les gens pensaient qu'on allait annoncer le décès d'Ozzy à la fin des années 70. Sharon l'a ramassé d'abord en tant que gérante, ensuite en tant qu'épouse. Il l'a littéralement fait renaître de ses cendres pour une carrière solo qui, non seulement est digne de mention, mais est digne de se retrouver au Rock and Roll Hall of Fame.
Et des fois, on pense que ça va être un coup de chance, un coup de dé quand un artiste comme celui-là arrive à renaître. Mais quand il arrive à perdurer... Hey, on a eu un mousse de bon album avec Patient No. 9 il n'y a pas si longtemps de Ozzy Osbourne.
Oui. Mmh.
Fait que ce n'était pas que de la loc pour lui. Fait que, il existe toujours, le Prince des Ténèbres.
Je suis content qu'on le fasse de son vivant. Merci. On sait que Ozzy est magané. Il y en a plus de fêtes que ce qui reste à faire.
Pas sûr de ça, moi. S'il est encore en vie là, d'après moi, il peut se rendre encore dans un bout.
Il peut passer quelques airs glaciaires et quelques réchauffements climatiques, effectivement. Boulevard 102.1 et Gravel dans le retour. On décide de rendre hommage à la carrière d'Ozzy. Tommy, on t'écoute. Leclerc.